Bienvenue dans Soutien spirituel, un livre audio qui accompagne celui qui chemine dans la spiritualité et qui aide à méditer sur la parole de Dieu. La terre n'est pas un paradis. Première partie. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, 43.
De toute évidence, lorsque nous réfléchissons amplement, il existe deux choses sur Terre dont nous sommes tous unanimes. La première chose, c'est le fait de vivre cet instant présent où nous sommes. L'ici, maintenant. La deuxième chose, c'est le fait de savoir que nous mourrons tous un jour, et que nous partirons de ce monde. Aussi dur que ces deux évidences puissent l'être, nous n'avons pas d'autre choix que de les accepter. Mais seulement, nul ne peut savoir et décrire avec certitude ce qui se passera après cette vie sur Terre. Un jour, j'échangeais avec ma fille qui avait à peine 6 ans, lorsqu'elle me sortit ceci. Avant de naître, j'étais d'abord chez Dieu. Un peu perplexe, à l'écoute de cette phrase, je me suis dit après. Si on meurt, alors, c'est que sans doute on y retourne.
Qu'est-ce que le paradis ?
Dans la plupart des doctrines et religions, on nous parle de paradis. Un monde dans l'au-delà, un monde suave, merveilleux, parfait. Où il n'y a ni souffrance, ni douleur, ni faim, ni mort, ni tristesse. Où ne règne que la joie, la paix, le bonheur. Nul ne saurait vraiment décrire ce monde avec exactitude, car jusqu'à preuve du contraire, ici sur Terre, personne ne l'a vu. C'est sûr, à entendre ce qu'est le paradis nous amène à réaliser que la planète sur laquelle nous vivons actuellement est loin de l'être. Sur notre planète, on ne pourra pas assez énumérer toutes les imperfections, toutes les inégalités, toutes les injustices, toutes les crises, toutes les violences, toutes les maladies, tous les conflits, toutes les intempéries et tous autres dérèglements qui montrent que nous sommes très loin du paradis. On ne vit pas dans le monde des bisounours. Mais seulement, si la Terre n'est pas un paradis, on ne peut non plus dire que c'est un enfer. Puisque pareillement, personne n'a vu et ne sait réellement ce qu'est l'enfer. Et sur Terre, il n'y a pas que du mauvais. Nous y trouvons aussi du bon. Nous y trouvons de la vie, de l'amour, la nature, les joies, le partage, des moments de paix, de douceur, de fraternité, de calme. Nous pouvons y trouver des personnes justes. Maintenant, de savoir qu'il existe quelque part, un paradis ou un enfer en est tout autre chose. Car, il y va de chacun de croire, d'apprécier, d'interpréter, d'accepter ou de rejeter l'existence de ces deux univers.
Méditons, ensemble.
Pourquoi sommes-nous sur Terre ?
De nos jours encore, si nous osons nous poser cette question, c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont la réponse. Je ne peux non plus prétendre connaître toutes les réponses, sauf lorsque je vais les chercher en m'appuyant sur les Saintes Écritures. Il existe aujourd'hui deux types de théories à ce sujet. La première que j'évoquerai, qui à mon avis me semble peu plausible, est la théorie du Big Bang. C'est un concept proposé par certains scientifiques qui stipule une théorie selon laquelle l'univers a émergé d'un état extrêmement dense et chaud, il y a un peu plus de 13 milliards et demi d'années. Ce phénomène a engendré petit à petit les galaxies. Et à la suite de cela, ces scientifiques essaient d'expliquer l'origine de la vie sur Terre, en supposant qu'elle provient d'une cellule. Mais comment expliquer son évolution ? Si tel est le cas, comment expliquer la présence de la vie et de la mort ? Comment expliquer le mode de vie de toutes ces différentes espèces vivant sur Terre, dans les océans et dans les airs ? Nous voyons que l'idée d'émettre que l'homme viendrait du singe est considérée aujourd'hui comme fausse par ces mêmes scientifiques. La deuxième théorie qui, à mon avis, est censée et plus tangible, c'est la théorie du sacré. Cette théorie qui stipule qu'il y a un Dieu créateur qui a créé toutes choses. Il a créé l'univers avec tous les mystères qu'il comporte, et a donné vie à tout ce qui vit. Pour nous les hommes, l'univers est trop vaste et les mystères trop nombreux pour pouvoir trouver explication à tout. Comment chercher à expliquer l'origine du monde, de l'univers, si nous n'arrivons pas déjà à expliquer notre propre origine ? Pour essayer de découvrir l'origine de l'homme, il faut remonter l'histoire. Il faut consulter les archives. Et la plus vieille archive que nous avons sous la main, aujourd'hui, n'est rien d'autre que la Bible.
Mais la Bible, elle, quelle est son origine ?
C'est d'abord le tout premier livre imprimé au monde, par Gutenberg, dès le 15e siècle. Considéré comme le livre des livres, c'est l'ouvrage le plus lu et le plus étudié au monde. La Bible est un assemblage, ou une bibliothèque regroupant au total 73 livres, écrits par différents auteurs. Elle se compose en deux parties. L'Ancien et le Nouveau Testament. Ou Ancienne et Nouvelle Alliance. L'Ancien Testament, qui correspond à l'ensemble des livres saints du peuple juif, la Torah, est composé de 39 livres et 46 pour les chrétiens. Il existait au départ deux versions de la Bible. La version hébraïque, langue d'origine, et la version grecque, langue littéraire la plus répandue à l'époque et en laquelle a été écrit le Nouveau Testament. La version grecque comprend sept autres livres en plus. Judith, Tobie, les deux livres des Maccabées, Sagesse, Siracide ou Ecclésiastique, Baruch. Après hésitation, la tradition catholique les a intégrés en second lieu dans leur version. Mais, la tradition protestante accorde moins d'importance à ces livres et les considère comme cachés. Ou apocryphes. Ceci explique pourquoi ces livres ne figurent pas dans les versions d'origine protestante. Qui comptent, elles, 66 livres. Quant au Nouveau Testament, les chrétiens se sont tous accordés à 27 livres. Mais, bien avant notre ère, la Bible, dans sa version hébraïque et grecque, avait été traduite à l'an 392 en latin par le moine Jérôme de Stridon, ou Saint Jérôme, sous la demande du pape Damas Ier. Il y consacra 34 années de sa vie. Aujourd'hui, la Bible est traduite en près de 2000 langues. C'est ainsi qu'il existe plusieurs versions selon les confessions chrétiennes. Les saintes écritures du peuple juif étaient au départ présentées sous forme de manuscrits. Ces manuscrits étaient écrits sur des rouleaux parfois longs de plus de 7 mètres. Certains de ces manuscrits, rédigés sur des parchemins ou des papyrus, ont été découverts des siècles après Jésus-Christ sur différents sites. Qumran, en Mer Morte. Conservés le mieux que possible par les sages de l'époque, ces textes ont demandé plusieurs siècles de travail titanesque, pour être restaurés, assemblés, traduits par des exégètes. Nous pouvons, aujourd'hui, nous estimer heureux et privilégiés d'avoir à notre portée un tel livre. Nul ne saurait préciser avec exactitude la date de l'apparition du premier homme sur Terre. Mais, le point de départ que nous avons pris, pour compter le temps jusqu'à aujourd'hui, est Jésus-Christ. Bien que certaines cultures se réfèrent encore à des dates issues de leur propre civilisation et tradition. Jésus-Christ est celui que Dieu avait promis aux hommes, comme Messie, depuis l'Ancien Testament. Il l'a annoncé par plusieurs prophètes, en commençant par les écrits de Moïse.
Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera à mon nom, moi-même je lui demanderai compte. Deutéronome 18, 18 à 19.
Il est également annoncé à travers les prophéties d'Isaïe.
C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Isaïe 7, 14.
Et ainsi que dans le livre de Michée.
Et toi, Bethléem, petite ville entre les milliers de villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité.
Ainsi, Jésus est celui qui était né d'une vierge, dans une étable à Bethléem, et vivait dans une famille modeste. Et pourtant, il est fils de Dieu. Il guérissait les malades, chassait les démons. Et pourtant, il ne disposait d'aucun médicament, d'aucune potion. Il enseignait et faisait connaître le Père comme personne ne l'a fait, au point où tout le monde l'appelait maître. Et pourtant, il n'avait fait aucune étude et ne disposait d'aucun diplôme. Il accomplissait des miracles, des prodiges, et pourtant, il n'avait que sa parole. Il a souffert sa passion et a été crucifié au milieu des brigands, et pourtant, il n'avait fait aucun mal, il n'a commis aucun péché. Il a ressuscité des morts, comme l'avait annoncé la prophétie, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et pourtant, il n'a fait aucune guerre.
C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 9 à 10.
Merci d'avoir écouté cet épisode, extrait de son livre « Soutien spirituel ». À très bientôt.